Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, nous sommes tous sur France Inter et c'est de l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais nous spoiler.
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Romorantin, 17 900 habitants sous-préfecture du Loir-et-Cher. Ces immigrés venus travailler chez Matra Automobile. L'usine a fermé en 2003. Toutes les caméras étaient là. Depuis, le centre-ville a fait faillite. Les journalistes ne se déplacent plus que pour Marine Le Pen. Sinon, on dit Romorantin comme on dirait le fin fond de la France, sans histoire. Mais on n'y va pas. Elle a fait le trajet à l'envers. 2h, 15 minutes et un changement de train. Elle est rentrée chez sa mère. Elle a retrouvé les copains et les cousins. Elle a recollé les morceaux. Journaliste, oui, mais pour enquêter sur là d'où elle vient, tiraillée entre le devoir de loyauté et l'exercice de son métier, tiraillée entre son ascension sociale et la trahison des siens. Bienvenue chez les Bouzeux.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Marine Le Pen était dans le Loir-et-Cher aujourd'hui. Elle a choisi Romorantin comme étape de son tour de France des fédérations. Toute la journée, elle a échangé avec des militants, consulté sur l'évolution du parti. Christine Lanet et Grégoire Grichois.
Romorantin, ou la chef de file du FN, est arrivée en tête du premier tour à la présidentielle. C'est l'une des 10 étapes de sa tournée entamée en septembre.
Les filles de Romorantin paraissent aux éditions de l'Iconoclaste. Si vous nous regardez en vidéo, je vous montre ce petit livre. Bonjour Nassira El Moadem.
Bonjour Sonia De Villers.
Ancienne directrice du Bondy Globe. Bondy Globe, c'est joli.
Mais
ça
tu... Vous la faites tout le temps.
Non, c'est vrai.
Oui, c'est bien, c'est la running gag.
Ouais, ouais. C'est comme ça. Voilà, mais ceci dit, vous avez été globe-trotteuse pour le Bondy Globe. Le Bondy Globe, voilà. De toute façon, c'est foutu maintenant. Et vous avez été aussi ancienne journaliste à iTélé, Canal+, et France 2. On est mardi. Et il y a Xavier Delaporte à mes côtés. Ça va, Xavier?
Ça va, et vous? Bonjour.
Voilà,
à tous,
elle est
à
très
tous.
Bienvenue,
bonjour.
Votre chronique.
Ça va, vous allez pouvoir reposer.
Exactement. Puis ensuite, on parlera du livre de Nassira qui nous a beaucoup plu. Alors, la fenêtre numérique aujourd'hui, Xavier, elle s'ouvre.
Sur le Liban. Ouais. Parce que qu'est-ce qui déclenche une révolution? Alors c'est un mystère qu'aimerait bien éclaircir ceux qui espèrent la révolution, mais aussi ceux qui essaient de la prévenir, essentiellement les gouvernements. Je prétends pas avoir la solution, mais ce qui s'est déroulé au Liban ces derniers jours a le mérite de renouveler la réflexion. Tout a commencé jeudi dernier, quand le gouvernement a annoncé, parmi d'autres mesures, une taxe sur les appels passés sur les services qu'on appelle voix sur IP. C'est-à-dire Facebook Call, Skype, ouais. WhatsApp, Viber, etc. FaceTime aussi. Toutes ces applications qui permettent de se parler de vive voix par Internet, autrement dit de téléphoner, mais sans passer par les opérateurs télécoms classiques. 18 centimes d'euros par jour pour avoir le droit de les utiliser. C'était le montant prévu de cette taxe qui aurait dû rapporter quelques 200 millions d'euros par an à un État exsangue. Les Libanais sont immédiatement descendus dans la rue en masse et le gouvernement a eu beau faire machine arrière le jour même. Le mouvement s'est amplifié tout le week-end au slogan de « Révolution, révolution ». Tout ça a abouti à une série de mesures annoncées hier soir par le Premier ministre Saad Hariri, parmi lesquelles la suppression, c'est pas la plus importante mais elle est notable, la suppression du ministère de l'Information qui était à l'origine du projet de cette taxe. Même si les causes sont évidemment multiples et profondes, un quart des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, le chômage est endémique notamment chez les jeunes et puis des affaires ont fini de discréditer le gouvernement, que ce soit un projet de taxes sur les communications qui mettent les gens dans la rue, ça n'est pas anodin. Comme il n'était pas anodin en 1789 que ce soit les hausses successives du prix du blé et donc du pain qui aient mis les Parisiens dans la rue, même si on sait très bien les causes de la révolution étaient éminemment plus profondes et complexes. Ce sont toujours des gouttes d'eau qui font déborder les vases. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la goutte d'eau, c'est une surtaxe des communications. Alors bien sûr, il s'agit là, pour une part, d'une spécificité libanaise. Si les Libanais ont été heurtés par cette initiative, c'est non seulement qu'ils sont sous pression économiquement, mais c'est surtout parce qu'ils sont de grands consommateurs de voix sur IP. Oui. Les communications par voie classique sont parmi les plus chères de la région et la diaspora libanaise étant conséquente, les gens n'en peuvent plus de dépenser des fortunes pour rester en lien avec leur famille. Donc ce sont sans doute des conditions spécifiques qui ont fait que ce projet de taxe a eu un tel effet. Mais ça dit aussi la part qu'ont pris les communications dans nos modes de vie. D'aucuns pourraient trouver ça ridicule, voire indécent qu'elles puissent occuper la place qu'occupait le pain à d'autres époques. Mais c'est un fait que les besoins essentiels évolue avec le temps, et ce qui paraissait tolérable il y a 250 ans, c'est-à-dire ne pas être constamment en lien avec ses proches, ne l'est plus aujourd'hui. D'où les débats juridiques assez intéressants autour de la reconnaissance de ce qu'on appelle un droit à la communication, qui ne serait pas qui ne viserait pas simplement à garantir la liberté d'expression, mais aussi la qualité des moyens de communication et leur accès. Car c'est pas seulement la vie politique du citoyen qu'il s'agirait de garantir, mais aussi sa vie sociale, affective, familiale, amoureuse, car c'est tout ça que nous faisons avec nos machines et avec ces applications problématiques par ailleurs, que ça nous plaise ou non.
C'est passionnant, oui. Et c'est à réécouter sur franceinter.fr. Et avec vous, Nassir El-Mohadem, on va parler aussi d'une goutte qui a fait déborder le vase. C'était pas une goutte d'eau, c'était une goutte d'essence. Et ça a donné les gilets jaunes.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Dépités et très en colère, les salariés de Matra Automobile ont appris la nouvelle dans l'après-midi. La production de la Renault Avantime s'arrête à la mi-mars, l'usine ferme définitivement, près de 1000 employés sont licenciés.
Les carottes sont cuites maintenant, hein. Maintenant on va penser qu'il va falloir pointer à l'NPE, hein. Ils sont servis nous, puis maintenant ils nous mettent dehors.
Avec la fermeture de Matra à Romorantin, c'est le premier employeur privé de la région centre qui met la clé sous la porte.
On était le 26 février 2003 et on regardait TF1, fermeture de Matra Automobile, 3500 salariés. C'était la fierté de Romo. Dites-vous, Nassira El-Mohadem, vous y êtes née, un habitant sur cinq, un dénominateur commun des immigrés recrutés à tour de bras. Et puis, la Renault Espace, c'est un souvenir d'enfance.
Oui, oui, moi je me souviens que mon papa, qui était donc ouvrier à l'usine Matra Automobile de Romorantin, avait amené la Renault Espace au moment de sa construction pour l'essayer, parce qu'en fait les ouvriers avaient cette possibilité de pouvoir ramener la Renault Espace pour la tester le temps d'une journée, etc. Et donc on était tout fiers, nous, dans notre Renault Espace, de pouvoir la tester à Romorantin et dans les alentours. Donc oui, c'était une fierté. C'était une fierté parce que, comme vous l'avez dit, c'était l'entreprise qui employait le plus de personnes dans toute la région, hein, pas uniquement Romorantin, hein, c'est-à-dire que ça rayonnait jusqu'à Orléans, jusqu'à Tours, jusqu'à Vierzon, jusqu'à Bourges.
Donc avec c'était une colonne vertébrale sociale.
Absolument. Mais c'était surtout une fierté parce qu'on louait partout, jusqu'au Japon, il fallait voir les coupures de presse, la main-d'œuvre et les compétences et le savoir-faire des ouvriers. C'était une toute petite entreprise qui était aussi jalousée parce que c'était une petite ville, petite entreprise, comparativement aux Renault et aux Peugeot qui avaient des grandes usines de production. Donc oui, la fierté, c'était tout ça, effectivement.
Alors il y aura un avant et un après la fermeture de Matra Automobile. Toute la presse est venue ce jour-là. La presse est revenue pour Marine Le Pen, qui passe par Romorantin. Mais sinon, et vous le dites, Nassir El-Mohadem, dans votre livre, vous dites « écrire sur les invisibles ». Est-ce que les invisibles, c'est d'abord une question médiatique ?
Je le crois. Alors d'abord, je sais pas, mais je le crois. Et en tout cas, c'est ce qui revenait beaucoup dans la bouche de ceux que j'ai retrouvés, mes camarades d'enfance, mes proches, mes voisins, mes cousins, qui disaient « mais nous, on existe uniquement quand il y a une fulgurance, quand il y a une violence sociale ». Et heureusement, évidemment, que à ce moment-là, les caméras étaient là. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Entre 2003 et aujourd'hui, effectivement, on a parlé de Romorantin de Lanthenay, puisque c'est le nom de la ville qui a fusionné dans les années 70. On ne parlait de Romorantin que pour raconter effectivement la progression fulgurante de Marine Le Pen lors des élections, qu'elles soient d'ailleurs européennes, nationales, législatives et présidentielles. Et tout ce pan que j'essaye, moi, de documenter à travers les récits de vie de gens que je connais et puis à travers, moi, mon retour précis sur ce qui s'y passe concrètement dans le centre-ville, etc. Tout ça, malheureusement, n'existe pas tellement. Il existe évidemment dans la presse locale et heureusement qu'elle est encore là, la Nouvelle République, pour ne pas la citer. Mais le reste, effectivement, il y a un peu un
fois, du coup, votre berceau est devenu votre terrain d'enquête. Qui parle ? D'où on parle quand on est journaliste ou quand on reçoit le discours d'un journaliste ? Ce sont des questions cruciales. Or, chez vous, il y a, du point de vue de la perception, comme une sorte de hiatus que vous ne niez pas entre votre nom et votre origine. Êtes-vous, Nassira El-Mohadem, une racaille ou une bouseuse ?
J'en sais rien, mais c'est vrai que... En fait, ce qui était compliqué pour moi, c'était à la fois d'assumer que j'étais une fille de Romorantin au moment où je faisais ce retour, parce que c'est ma vie, c'est mon origine, c'est là où j'ai grandi, et en même temps d'essayer de m'en détacher pour avoir le récit le plus neutre entre guillemets, possible. En tout cas, le plus honnête. Voilà, le plus honnête possible. Et c'était compliqué à gérer.
Et du coup, il y a toute une réflexion sur votre identité, il y a toute une réflexion sur votre parcours professionnel, sur ce qu'on vous a renvoyé. Vous le dites, vous étiez directrice du Bondy Blog. Vous voulez rappeler en deux mots ce que c'est que le Bondy Blog ?
Oui, média en ligne créé en 2005, juste au moment des révoltes urbaines par nos amis feux du quotidien de l'hebdo, pardon, l'hebdo suisse, qui étaient venus donc couvrir en fait les révoltes et qui ont donc créé ce fameux site internet qui continue aujourd'hui à exister, à raconter effectivement le récit des quartiers populaires.
C'est ça. Et donc vous le dites bien, vous dites que vous êtes issu de la diversité et vous mettez vous-même des guillemets parce que c'est toujours les mêmes phrases type. Voilà. Et donc en fait, en réalité, vous êtes arabe et donc on vous croit d'emblée issu de la banlieue.
On a du mal à imaginer.
Vous n'êtes pas issu de la banlieue. Vous êtes solognotte.
Et je l'ai toujours dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avait du mal à imprimer visiblement. Et je le répète et j'essaye de l'expliquer effectivement dans le livre en disant on peut avoir une multiplicité d'identités. Tout ça n'est pas antinomique. On peut être d'origine marocaine, on peut être musulman, on peut être français, on peut être solognot. Et puis à un moment de sa vie, à un moment de son parcours, déambuler dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis et d'ailleurs et avoir envie de les raconter. Parce qu'au fond, finalement, ce sont les marges qu'on raconte. Les marges territoriales, les marges de population.
C'est ce que vous dites aussi, les journalistes opposent la France des racailles et la France des bouseux. Vous avez pris la Sologne et le Loir-et-Cher comme maître étalon de votre travail de journaliste sur le terrain, y compris en banlieue.
Moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée dans le récit médiatique qu'on a tous fait pendant la crise des Gilets jaunes, c'est effectivement cette tendance à opposer les territoires des petits blancs qui souffriraient et qui souffrent effectivement et les territoires des Arabes et des Noirs. Pour faire court, mais on l'a entendu, à qui on a déversé des milliards d'euros avec ces fameux plans banlieues, ce qui est absolument faux et ça a été prouvé notamment par Jean-Louis Borloo avec son fameux rapport Borloo qui a été enterré. Et j'avais envie de déconstruire ça, c'est-à-dire de raconter que ce sont les mêmes gens en fait. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les quartiers populaires, ce sont des gens qui sont dans des situations sociales défavorisées, des pauvres, des précaires, et ce sont exactement les mêmes situations sociales qu'on retrouve dans le Loir-et-Cher, dans les quartiers de Romorantin que je raconte, que ce soit d'ailleurs à Villefranche-sur-Cher quand je retrouve ma copine Caroline, ou qu'on soit à Saint-Marc, quartier populaire de Romorantin. Donc oui, j'avais vraiment envie de raconter ça, mais pas juste à travers des mots et à travers des grands faits d'actualité, mais
dites,
à travers mon histoire, parce
je
que
le sais,
c'est ce que je connais le plus.
Je l'ai vécu, exactement. Ce sont vos mots. Alors, évidemment, vous avez donc mêlé ce regard de journaliste à celui d'une enfant du bled. Vous êtes, dites-vous, tiraillé entre une espèce de loyauté vis-à-vis des vôtres et la nécessité de devoir raconter. Je vous fais écouter, c'était publié sur le site du quotidien La Nouvelle République, l'acte 9 des Gilets jaunes.
Bah aujourd'hui, c'est une réussite pour une petite ville comme Romorantin, puisqu'on est à peu près 400 personnes qui sont venues de différents coins du département et d'autres même des départements limitrophes. Donc c'est un succès, puisque le gouvernement a tendance à dire que notre mouvement s'essouffle, alors qu'on montre qu'aujourd'hui, le mouvement il est toujours actif.
Et sur la page Facebook des Gilets jaunes de Romo, vous retrouvez donc Caroline, l'amie de l'école primaire des Tuileries. Elle a travaillé pendant 13 ans chez Monsieur Bricolage. Elle est aujourd'hui ajusteuse-monteuse dans une usine de Vierzon. Soit elle bouffe à midi, soit elle met de l'essence dans sa voiture. Donc c'est très concret. Comme elle a besoin de sa voiture pour aller bosser, ben elle bouffe pas à midi. Et à la fin du mois, elle est bloquée chez elle parce que l'essence, le peu d'essence qu'elle a, elle le garde pour aller travailler. Son histoire vous donne envie de péter les plombs. Vous vous abstenez. Foutu réflexe de journaliste, dites-vous. Mais ce qui vous intéresse, c'est ce destin croisé. Vous êtes, Nassir Al-Mohadem, fille d'ouvrier, vous êtes devenue journaliste. Elle était fille de commerçant, elle est devenue ouvrière. Réflexion sur le déclassement de l'une et l'ascension sociale de l'autre.
Ouais. Et en fait, ce qui était très bouleversant pour moi, c'est que Caroline, je l'ai cherché à la retrouver des années et j'ai jamais réussi à la retrouver. Et là, effectivement, en déambulant dans les groupes Facebook des Gilets jaunes de Romorantin, je la retrouve. C'est compliqué au départ parce qu'elle refuse de me parler. C'est-à-dire que je rentre en contact avec elle, on discute quelques minutes.
Mais pas parce que vous êtes Nassira, parce que vous êtes journaliste.
Parce que je suis journaliste. Et elle me le dit, en plus, elle me dit, écoute, c'est compliqué en ce moment, voilà, je suis engagée dans les Gilets jaunes. Je sens bien que, oui, effectivement, c'est le fait que je sois journaliste qui lui pose un problème.
Vous êtes passée de l'autre côté de la barrière.
Oui, je suis plus Nassira. De l'école primaire des Tuileries, quand on allait faire du vélo rue Laforêt, pas trop loin de chez elle.
Vous incarnez tout ce que ces gens vomissent, littéralement,
oui.
Vous utilisez le mot
oui.
Vomir.
Haïs, abhor, vomissent, absolument, ils me le disent d'ailleurs, sans aucun problème. C'est vrai que c'est compliqué à gérer pour moi, parce que moi j'arrive en pensant que on va me regarder avec mon visage et le parcours qui est le mien de Romorantinaise qui pendant 18 ans a vécu avec eux. Or non, tout ça est fini. Je suis aujourd'hui la Parisienne, celle qui évolue dans les élites selon eux ou selon elle et qui ne sait pas parler d'eux et qui ne sait pas parler d'elle. Donc je ne suis plus vue comme Nassira. Alors il me faut du temps effectivement pour renouer contact avec Caroline, mais ce qui est à mon avis peut-être le plus émouvant pour moi, et là c'est Nassira El Mouadem qui parle et pas la journaliste, c'est que au final elle ne m'a pas jugée, Caroline. C'est-à-dire que elle aurait pu très bien décider de couper complètement les ponts et de ne plus accepter de me parler parce que voilà, considérant qu'on évolue dans des mondes différents. Ben non, elle a accepté quand même de renouer contact avec moi et aujourd'hui on reprend et on renoue. Elle a rencontré mes enfants, etc. Et donc c'est le positif en fait qui ressort de tout ça.
Au premier abord, elle vous renvoie le fait que vous avez définitivement changé de monde. Or, vous vous livrez dans ce livre et vous dites, moi j'étais, pendant que elle était en BEP et en lycée pro, la seule arabe de mes classes littéraires et ouais. Je me suis trimballée toute ma vie un sentiment d'illégitimité et un sentiment d'imposture. Il y a combien d'enfants d'ouvriers, Nassira El Mouadem, dans une école de journalistes, par exemple ?
Peu encore. Peu. Trop peu. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a toujours la question de... Est-ce qu'on est définitivement passé de l'autre côté? Moi, je crois pas. Et c'est ce que je dis un peu dans le livre. Je pense qu'effectivement, il y a des ruptures. Très ouais, clairement, ouais. Il est hors de question pour moi de dire que ce que vit Caroline ou ce que vivent d'autres personnes, je le connais encore aujourd'hui, je le connais plus en fait. Ouais. Je sais plus ce que ça veut dire, moi, de plus bouffer à midi. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais étudiante. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, il faut quand même de la décence. Mais c'est vrai que ça pose des questions parce que j'y retourne quand même chez moi et je retrouve mes amis et je retrouve ma famille qui sont toujours dans des milieux ouvriers et je comprends, mais en même temps, je suis passée de l'autre côté. Et en fait, c'est ces allées retour aussi que moi j'avais envie de raconter. C'est-à-dire que quand on parle souvent de transclasse, il y a un côté, on passe de l'autre côté définitivement. En fait, on passe jamais de l'autre côté définitivement, parce qu'il y a la mémoire qui nous rappelle à tout ça, et puis surtout il y a le concret, il y a le présent, il y a les rencontres et les retrouvailles.
Justement, sur ces marges qui sont beaucoup plus, et ces frontières et ces limites beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Où sont les Turcs et les Arabes de Romo, disent les Gilets jaunes? Pourquoi qu'ils sont pas avec nous? L'un d'entre vous vous demande de l'accompagner, vous rencontrez un ancien boxeur qui répond,
c'est bah,
on aurait été tout de suite pointé du doigt si on avait manifesté avec vous. On est nombreux à soutenir vos revendications parce que notre vie, c'est aussi la vôtre. Oui. Mais la vérité, c'est que la nôtre, nous, les Turcs et les Arabes, c'est pas la vôtre. Oui. Ça m'a collé.
Oui. Moi aussi, en même temps, j'étais pas surprise parce que je l'avais déjà entendu de la part de certains comités de quartiers populaires et d'associations de quartiers populaires en Seine-Saint-Denis au moment où il y a eu la volonté de converger vers le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je l'avais déjà entendu. C'est-à-dire, effectivement, attendez, nous, on est absolument solidaires. Ce que vous déplorez aujourd'hui, ça fait 15, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans que nous, on le dit.
Sauf que nous, en plus, on est arabes et noirs.
Voilà.
Et ça change tout.
Pas uniquement sur la question des violences policières, mais sur la question des conditions sociales, en règle générale. Et moi, je suis pas surprise. Mais c'est vrai que ce qui me frappe dans la réaction de Daniel, c'est qu'il est complètement, qui est donc leader des Gilets jaunes, Romorantin, un des leaders, c'est qu'il est complètement estomaqué par ce qu'il entend, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Nassira El Mouadem. C'était un très, comment dire, bref éclairage sur un livre qui raconte beaucoup plus d'histoires que ce qu'on a pu en dire ce matin. Les filles de Romorantin est donc paru aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci.
C'est la fin de l'émission. Bonjour Julia Foïs.
Mais bonjour tout le monde.
Alors, grand bien vous fasse.
Ben oui, on va parler d'amour
ce matin. Grand bien fasse à notre désir.
Alors, on va essayer. Hein, on va dire qu'on va parler d'amour quand il y en a encore un peu et de désir quand il y en a plus trop beaucoup.
C'est ça. Il y a le numéro du standard. Je le donne. Pour une fois que je peux le donner, allez-y. 01 45 24 7000.
Waouh !
À tout à l'heure.